Je me réveille, je dormais dans un piano.
Non.
Allez hop.
Les médias francophones publics présentent.
Bon, vas-y, 1, 2, 3, 4.
I love le grand.
Une série musicale en 9 mouvements.
8 mesures, tu fais tout seul.
Composée par Leïla Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Bonlo. I love le grand.
Faut être un aventurier, merde.
Sur France Inter.
Just want to tell you that we spend years of love and I'm ready to do it again anytime.
Michelle Legrand and Alan Marilyn Bergman for the Windmills of Your Mind.
And the winner is Yentl, Michelle Legrand, Alan and Marilyn Bergman.
Et quand Michelle Legrand part à la conquête des Amériques, la moisson, vous l'avez entendu, est bonne, très bonne même, 3 Oscars pour notre French Maestro. L'affaire Thomas Crown, l'été 42, et Yentl avec Barbara Streisand. Mais dès 64, Big Mike fait déjà parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique, avec le succès des Parapluies de Cherbourg. Les Américains en raffolent, le film est même en compétition pour décrocher une statuette. La chanson si romantique « Je ne pourrai jamais vivre sans toi » deviendra « I will wait for you », un standard repris par Sinatra, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. À cette même époque en France, Michel est le compositeur star de la Nouvelle Vague. Avec cette palme d'or à Cannes pour les Parapluies, tout le monde veut travailler avec lui. Mais que se passe-t-il quand Michel triomphe? Eh bien, il décide de tout arrêter pour tenter une nouvelle aventure, une nouvelle boucle dans sa vie. Fini la musique pour le cinéma français, il veut à nouveau repartir de zéro. Alors Michel quitte la France et s'installe aux États-Unis. Ce pays le fascine depuis les années 50, il était tombé amoureux de l'énergie de la scène jazz new-yorkaise. Cette fois-ci, c'est à Los Angeles qu'il va poser ses valises, la ville du printemps éternel, d'Hollywood et de sa démesure.
J'ai travaillé pendant 7 ans environ à Paris avec les gens de la Nouvelle Vague. Et un jour, je dis à Godard, écoute, Jean-Luc, moi, ça m'emmerde. J'en ai marre de faire de la musique à Paris, ça me rase. Je fais la musique ensuite, mais ce sera le dernier. Puis je découvre après, une fois que la musique fut enregistrée et mixée, tout ça, qu'au film, avait mis « Et pour la dernière fois à Paris !» En énorme. Je ne pouvais plus rester. J'avais dit ça comme une boutade. Alors après, dans les mois qui suivaient, j'ai pris ma femme et mes enfants sous le bras, je suis très fort. Et là, j'ai profité de ça pour aller m'installer aux États-Unis, à Hollywood, où nous sommes restés 2 ans et demi.
I Love Le Grand. 6e mouvement.
Le French Maestro.
Avec, par ordre d'apparition,
son fils, Benjamin Legrand, son frère, Benjamin Legrand, Stéphane Le Rouge, biographe, Alan Bergman, parolier, Éric Berchaud, pianiste, Xavier Beauvois, cinéaste, Laurent Delmas, journaliste, sa femme, Macha Merrill.
Music by Michel Legrand.
Vous savez, mon père, il a toujours essayé d'échapper à tout, finalement. Il a passé sa vie à échapper à une étiquette qu'on aurait pu lui donner, à une image qu'on aurait pu lui donner. Alors, dès qu'il avait un truc, hop, il partait vers autre chose. Par exemple, quand on est parti à Hollywood, c'est parce qu'il faisait beaucoup de musique pour la Nouvelle Vague. Ça se passait très bien, il était demandé, il y avait Jean-Luc Godard qui lui demandait des musiques, enfin tous les gens de l'époque. Et puis, mon père en a eu marre, il a voulu faire autre chose. Alors, clac, on est parti... Et lui, comme un aventurier, à Hollywood, où personne ne lui avait rien demandé, mais il a passé sa vie à échapper aux étiquettes. Quand même, on est parti habiter à Hollywood pendant... On est parti en 65, on est revenu en 69, on avait une maison à Beverly Hills, en haut de la colline, comme ça, qui dominait toute la ville, voilà, avec piscine, tennis, balançoire, maison pour les enfants dans le jardin, les petites voitures électriques, enfin, je vous dis pas, on avait une vie de rêve, enfin, on avait une vie complètement... Et c'est vrai que quand on est enfant, on a l'impression que tous les enfants sont comme vous. On s'en rend pas compte au début. C'est après, quand on grandit un peu, qu'on s'aperçoit que tous les parents sont pas comme ça et qu'on a pu vraiment profiter comme ça de moments exceptionnels.
C'est une ville de feignants merveilleuse. Mais vraiment, je crois d'abord, il fait très chaud toujours. Tout le monde a sa petite piscine, son tennis, parce que si on n'a pas sa piscine et son tennis, on n'est rien du tout. Enfin, Hollywood, on n'existe pas. Du fait qu'on a ça, on se baigne beaucoup et on joue beaucoup. Et du fait qu'il fait très chaud aussi, on travaille pas beaucoup. Par exemple, j'ai habité chez des amis là-bas qui... je lui disais, par exemple, est-ce que tu es libre mercredi pour aller voir un tel et un tel? Il me dit, non, mercredi, écoute, attends. Alors, il sort son petit carnet, il me dit, non, mercredi, je peux pas parce que... Attends, alors, ah non, j'ai mon tailleur à 3h30 et je dois voir quelqu'un vers 8h. Enfin,
ah oui.
Sa journée était complète.
Alors le soir, soit je gardais les enfants, ça servait un peu à ça, parce que je faisais babysitter attitré, c'était pratique quand même. Soit des fois, ils m'emmenaient. Alors le soir, il allait souvent... Ben, dîner chez des amis, ou alors il y avait des gens qui voulaient lui montrer tout Hollywood et tout ça, donc c'était assez extraordinaire, quoi. T'allais dans une soirée avec toutes sortes de gens, à Malibu, dans les grandes maisons et tout, puis tout d'un coup, je vais voir ma belle-sœur, je dis, mais il y a un type sympa, là, qui arrête pas de me parler, et j'arrive pas à mettre un nom, c'est qui ? Elle me dit, mais c'est Marlon Brando, crétin. Bon, c'était un peu comme ça, c'était très étrange. Oriole Drive, ça s'appelait. Là, il y avait un soir, Jacques et Agnès débarquent avec Jim Morrison.
The movie will begin in 5 moments, the mindless voice announced.
Moi, je vois Jim Morrison arriver. À l'époque, c'était son premier disque, c'était Light My Fire. Et on entendait ça à la radio, sur toutes les radios, non-stop et tout.
would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we could.
On m'a tétanisé, quoi, parce que le mec, il dégageait quand même. Puis Jacques et Agnès étaient très dans le rock'n'roll et un peu même hippie, machin. Puis elle avait fait un film sur, avec les mecs qu'avait fait R, Agnès, Lion's Love et tout ça. Ils étaient vraiment à fond là-dedans. Et Michel n'a pas du tout apprécié Jim Morrison. Le dîner s'est transformé en un apéritif, je crois, ça s'est arrêté, ils sont partis. Et puis il est arrivé sur Podane après, mais c'était pas longtemps avant sa mort, il était bouffi d'alcool et tout, c'était assez terrible, triste à voir. Donc j'ai vu deux fois Jim Morrison dans ma vie grâce à Michel.
Voilà notre Michel Legrand installé en Californie, mais sans emploi. Très vite, le couple Demi Varda fait ses valises pour le rejoindre à Hollywood. Agnès Varda tourne un documentaire sur les Black Panthers, ces activistes noirs américains qui inquiètent le pays, et c'est à cette époque-là qu'elle se lie d'amitié avec un jeune rocker qui hypnotise les foules, Jim Morrison. Du côté de Jacques Demy, la greffe ne prend pas. Son film Model Shop, tourné à Los Angeles, qui se veut la suite de la trilogie entamée par Lola et les parapluies, n'est pas du tout dans la même tonalité. Demy ne fait pas du Demy, et Michel ne comprendra pas.
Je pense qu'il avait au fond de lui quand même, non pas une rancune, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas un énorme regret et un agacement. Voilà, au moins un minimum un agacement que Demy ait raté son étape américaine et que Demy n'ait pas fait aux États-Unis le film musical qu'Hollywood attendait de lui, notamment à la Columbia, puisque la Columbia lui ouvrait grand les portes et que, voilà, Michel me l'a dit 100 fois, il m'a dit, mais je connaissais Streisand, on connaissait Gene Kelly, on était là tous les deux à Hollywood, la Columbia voulait nous produire, on avait l'acquis, le joker des parapluies et des demoiselles, mais c'était ça qu'il fallait faire. Et Demy est allé faire ce film à la Antonioni, qui tout de suite a fait que son aventure américaine a, voilà, il a lui aussi d'une autre façon complètement casser la chance, gâcher la chance qu'il avait. Ça, voilà, Michel a avoué ça.
France Inter, 1964, à la sortie de la projection à New York des Parapluies de Cherbourg.
Les Parapluies de Cherbourg, pour leur premier soir à New York, ont eu un grand succès. À la sortie de ce film, Jacques Demy, est-ce que vous êtes satisfait des réactions américaines que vous avez pu voir?
On a ri au moment où il fallait, mais à la fin, le public était, il me semble, ému. Je crois que c'est une bonne réaction, enfin, normale et saine.
En tout cas, je suis certain, Michel Legrand, que la musique, il n'y a pas de problème. On la comprend aussi bien à Paris qu'à New York.
Oui, ça, j'en sais rien du tout. Je peux pas vous répondre.
C'est bien d'entendre pas parler. C'est vrai, la musique, c'est compris par tout le monde.
Ouais, ouais, c'est une chance formidable.
Alan Bergman, parolier.
Les gens aux États-Unis connaissaient les parapluies, qui était un vrai tour de force et qui a bien marché ici. Donc il était plutôt bien connu et il avait participé à un album formidable de Cole Porter qui était un 33 tours à l'époque. Il avait fait beaucoup d'albums avec de grands musiciens de jazz. Il était bien connu dans ce milieu. Savait qui il était, surtout les musiciens.
J'aime beaucoup Hollywood, j'aime beaucoup la façon dont ils travaillent. Enfin, c'est drôle parce que quand je vais en Californie, il se passe un petit peu à Hollywood depuis 3 ans ce qui s'est passé à Paris il y a 10-12 ans, c'est-à-dire qu'on a eu ici la nouvelle vague du cinéma. Or, en Californie, maintenant, c'est un petit peu le marasme cinématographique, ce qui est excellent, parce que ça va laisser enfin la place à des tas de jeunes réalisateurs qui n'avaient pas de place auparavant, de même pour les musiciens, de même pour les producteurs, de même pour... Bon. J'ai donc eu la chance de rencontrer des tas de types épatants, enfin des gens pleins de talents, des gens pleins d'idées, qui m'ont confié leur musique, et je me suis beaucoup, beaucoup amusé avec eux.
Mais il était heureux parce qu'il faisait des choses qu'il adorait. Il pouvait écrire ce qu'il avait envie, faire des musiques pour des grands metteurs en scène ou des moins grands, mais des petits films très beaux et des grands films des fois ratés. C'est un peu une loterie, quoi, le cinéma, quand même. Et puis, il avait plein d'amis là-bas, en Californie, tous ses potes musiciens, quoi. Il y avait Mancini, il y avait Lalo Schifrin, il y avait... Mancini, c'est quand même, c'est la Panthère Rose, hein, pour situer, pour les auditeurs, c'est lui qui a écrit ça.
Quand on est parti habiter à Los Angeles, mon père n'avait pas de commande. On est vraiment, il m'a raconté, on est vraiment parti comme ça. Et la chance a fait que, la première chance qu'il a eue, c'est que Henry Mancini, qui devait faire la musique de l'affaire Thomas Crown, il ne pouvait pas la faire, donc il a dit, tiens, il y a un jeune compositeur qui vient d'arriver à Hollywood, vous devriez voir ça avec lui. Ça a été une porte ouverte pour lui, extraordinaire. Mais il savait aussi un peu susciter la chance parce qu'il était plein de vie, plein d'envie. Il donnait envie aux gens de travailler avec lui.
Moi, j'ai adoré Mancini. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous stupéfier. Car Henri, quand je suis arrivé aux États-Unis, il m'a dit, Legrand, je ne connais pas personnellement, mais je connais votre travail. Il me dit, j'aime tellement ce que vous faites que je vais faire en sorte que vous deveniez l'un des nôtres. Or, c'était très émouvant parce que, en France, personne ne dit jamais de chance comme ça.
Alors j'ai fait un très mauvais film pour commencer, un très mauvais film pour continuer. Et j'ai eu la chance que le troisième film, c'était l'affaire Thomas Crown. Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, a never spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of pictures hanging in a hallway and the fragment of a song? Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to
The Windmills of Your Mind, interprété par la chanteuse britannique Dusty Springfield en 1969.
I Love Le Grand.
Check.
Play.
Une série des médias francophones publics.
Try me.
Par Leïla Kadour Boudadi sur France Inter.
Michel disait souvent : je veux être débutant dans quelque chose. L'émotion disparaît à partir du moment où l'habitude apparaît. L'habitude, c'est la tuberculose pour les artistes. Ils combattaient ça. Et l'affaire Thomas Crown est quelque chose de formidable qu'il racontait souvent, c'est que avant que ce film lui arrive, il voulait arrêter. Il en avait assez de la musique de film. Il voulait faire autre chose. Et il voit le film, il voit les images, il dit ça va pas du tout. Et rien qu'en voyant les images, il a refait le montage de la musique et le film s'est fait d'après la musique. C'est une histoire incroyable, l'histoire de l'affaire Thomas Crown.
L'histoire d'un film qui n'avance pas. Le réalisateur Norman Jewison est coincé. Le monteur Al Ashby, tétanisé. 5 heures d'images, un casse-tête. Et le producteur est au bord de la crise de nerfs. C'est là que notre Magic Mike n'a jamais aussi bien porté son nom. Michel Legrand va réaliser une première dans l'histoire du cinéma. Ce sont ses partitions qui vont déterminer le montage et la durée des plans. En réalité, la star de l'affaire Thomas Crown, ce n'est pas seulement Steve McQueen ou Faye Dunaway, c'est aussi la musique de Michel. Elle est l'essence même de ce film. Un feu d'artifice de jazz, de baroque et de musique moderne. Et la fortune sourit aux audacieux.
Ça n'a pas peur, on n'a aucune chance d'être un héros. Et pour être un héros, il faut être en danger. À chaque fois que j'ai un travail à faire, moi, je prends le plus de risques possible. Et d'ailleurs, au cinéma, ça m'a joué plein de tours. Moi, j'ai beaucoup de mes musiques de films que j'ai écrites, dont les bandes sont par terre dans la salle de montage, parce que les metteurs en scène les ont foutues en l'air. Parce que c'était daring, c'était osé, c'était audacieux, et ça leur a fait peur. L'affaire Thomas Crown, moi, je me suis mis en danger en faisant ceci. Quand j'ai vu le film, il faisait 5 heures. J'aurais dit, écoutez, bon, c'est très bien, alors, mais comment vous allez le monter, le film? Mais on ne sait pas encore, me disait Norman Jewison et Al Ashby, qui était son premier monteur. J'aurais dit, écoutez, allez vous coucher, allez tous en vacances. J'écris la musique maintenant, sans minutage, sans rien. J'écris 1h30 de musique, vous revenez dans 6 semaines et on fait le montage ensemble. J'ai travaillé en aveugle, dans le noir, ça, j'écris n'importe quoi, je laissais le crayon écrire. Et ils sont revenus, alors le producteur avait peur, Norman Jewison, Al Ashby était enthousiaste, quelle idée géniale. Et c'était formidable, parce qu'on l'a fait comme ça. Je veux dire que c'est quand vous vous mettez en danger que vous avez le risque d'être un héros, parce que vous risquez d'y passer tout le temps.
Mr. Crown wishes you good luck.
Je me suis enfermé 6 semaines, j'ai écrit, j'ai enregistré en présence d'Al Ashby et de Norman Jewison des musiques comme ça. Et eux, ils écoutaient. Et tout à coup, je les voyais en train de monter le film pendant qu'ils écoutaient la musique. Et moi, sournoisement, je savais très bien où allaient les séquences. Je dis, ça, c'est la séquence pour le jeu d'échecs. Ça, c'est la séquence du planeur. Ça va être la séquence quand il court dans la rue.
At the tone, the time will be...
Et sans minutage, sans rien. Et après, je peux vous dire, André, qu'avec Al Ashby, Norman et un aide-monteur, on a passé deux mois, tous les jours, tous les quatre, à s'amuser comme des enfants.
Play.
Try me.
Et les scènes, par exemple, qui sont très très longues, comme la
séduction d'amour
devant le jeu d'échecs, durent 7 minutes. Or, un cinéaste sans musique n'aurait jamais fait une scène de 7 minutes. Mais la musique a guidé tout ça. Et le film a été monté entièrement sur la musique.
Moi, j'avoue que la musique, j'aime bien que ce soit mélodieux, que ce soit beau, que ça raconte quelque chose. que ce soit un peu flamboyant ou voilà, c'est l'affaire Thomas Crown, c'est exceptionnel, c'est ça transcende tout. Et en fait, j'ai besoin d'une musique de film, j'ai besoin de pouvoir l'écouter sans le film. Il y a certaines musiques de film, s'il n'y a pas le film avec, vous pouvez pas, c'est illustratif, c'est voilà, ça fait peur, c'est machin, c'est pas. Et là, non, c'est pas ça, quoi.
C'est sûr que Legrand, mais comme les grands compositeurs au fond, faut le dire, hein, Michel Legrand, c'est du niveau de Nino Rota, Bernard Herrmann, Philippe Sard, Maurice Jarre, etc. Bon, mais c'est le top du top d'abord en matière de musique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'abord des musiciens. D'ailleurs, en général, un bon nombre d'entre eux, dont Michel Legrand, ils ont une œuvre concertante à part, à côté du cinéma. Le cinéma n'est pas, je dirais, un parent pauvre chez Michel Legrand. C'est une forme de son expression musicale. Et quand il décide effectivement de s'intéresser à un film, il le fait jusqu'au bout. C'est quand on lui apporte l'affaire Thomas Crown nue de musique, il prend le film en entier et il va écrire la musique sur les images qu'il verra, ce qui est l'adéquation totale, en quelque sorte, d'un musicien et d'un film.
Check. Let's play something else.
C'est la première fois qu'un film se fait par rapport à un montage musique que lui a vu dans sa tête après avoir vu un premier jet d'image. Il a tout de suite vu la scène de la partie d'échecs, ça va pas du tout, il faut la faire très longue, elle est trop courte. C'est un film incroyable, la musique. Ce thème principal qui arrive au bout de 20 minutes, 25 minutes, avec le planeur, c'est sublime.
C'est un coup de maître parce que c'est la musique qui a décidé, c'est que la forme du film s'est organisée autour de la musique. Et que du coup, on a vraiment l'impression que tout est structuré sur cette musique qui du coup est très très présente, quoi. Et en plus, comme c'est une musique par ailleurs en elle-même très inspirée, avec beaucoup de thèmes, avec une virtuosité d'orchestration, c'est le Legrand peut-être dans ces années pendant lesquelles l'orchestration fait le plus son intéressante chez lui. Et qu'en plus, une fois encore, on est vraiment, il y a une rythmique de jazz intégré à l'orchestre, avec un clavecin. Donc il y a un peu de baroque, il y a un peu de Stravinsky, il y a du jazz moderne, et tout ça se mélange. C'est peut-être une des partitions fusion, grand mélange. Et en plus, elle est très importante sur le film. Et en plus, il y a les chansons. Il y a la chanson du film, The Windmills of Your Mind, qui fait l'ouverture du film, qui fait la séquence du planeur. Donc elle est très très présente. Alors que au montage, pour structurer la séquence du planeur, Norman Jewison et son monteur, Al Ashby, avaient utilisé Strawberry Fields des Beatles. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Norman Jewison. Il a dit oui, finalement, le monteur du film, ça a été Michel Legrand.
L'histoire de cette chanson, c'est voilà. Moi, j'avais fait la petite comédie que j'avais fait avant, il y avait une chanson dedans. Et c'est une chanson que moi je ne connaissais pas d'auteur américain de ce moment-là. J'avais demandé au studio avec qui dois-je travailler. Il m'a dit, oh, il y a un type formidable, il s'appelle. Je travaillais avec lui, tout ça. Alors je vais le voir, c'était un vieux de la vieille d'Hollywood qui s'appelait Mac David. Et alors, bon, je lui donne ma mélodie, il fait un texte tout à fait banal. Quand arrive le moment dans l'affaire Thomas Crown, de faire une chanson, j'appelle Quincy, je dis écoute Kyou, je suis embêté parce que...
Quincy, c'est Quincy Jones.
Ouais, bien sûr, oui. Et alors, je lui dis écoute, j'ai une chanson ou deux à écrire pour le film là, que je vais faire. Tu n'as pas un auteur nouveau, mais écoute, si, il y a un couple, jeune couple formidable, avec qui je viens de faire une chanson pour un film. Ben, il dit d'ailleurs, viens demain soir, on enregistre la chanson avec Ray Charles. Alors je me pointe devant ça et je rencontre un couple. Et tout à coup, l'homme du couple, Alan Bergman, j'ai déjà joué au tennis avec lui dans les semaines passées, c'est drôle. Mais... Ah oui, ben, il me dit oui, mais ben... Bon. Et avec sa femme, Marilyn, on fait connaissance et je leur dis écoutez, on va travailler ensemble parce que je fais la chose. Et on devient avec Alan et Marilyn des amis intimes, bon, ce sont des gens formidables qui écrivent sublimement.
Well, I'm a tennis player.
Mais je suis un joueur de tennis. Et un jour, je jouais avec Gene Kelly, qui me dit qu'il vient de revenir d'un travail avec un jeune compositeur sur un film qui s'appelait Les Demoiselles de Rochefort. Il m'a dit qu'il venait en Californie et qu'il voulait nous le présenter à Marilyn et moi, car nous aurions pu écrire de grandes chansons ensemble. Gene nous l'a présenté et nous écrivons ensemble depuis. C'était en 1966.
In a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Alors celle-là en particulier, en fait, alors ils me disent, qu'est-ce que tu, ils me disent ce que tu penses comme texte. Alors je dis, écoutez, je sais pas très bien, la seule chose que je vois, c'est que je vois des choses qui tournent tout le temps comme ça. C'est une espèce de vie sans fin. Ils parlent, et ils ont écrit un truc formidable. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Enfin, vraiment avec tout ces... Et ils accouchent de ce texte magnifique. Quand on a ça en main, je demande à Norman Jewison, je dis, à qui on va demander de chanter ça? Et Norman me dit, il y a un jeune type qui vient d'arriver à Hollywood, qui m'a l'air de chanter très bien, c'est le fils de Rex Harrison, l'acteur. Le garçon s'appelle Noel Harrison. On lui joue la chanson, tout ça, et Noel Harrison dit, ouais, c'est pas mal, mais le texte est pas très bien. Les Bergman sont là, je veux dire, enfin, quoi, comment le texte? Oui, il faudrait peut-être refaire le texte. Alors Norman Jewison se fâche. Il dit, écoute, mon petit, on te prend pour chanter. Ou tu chantes la chanson, ou tu chantes pas. Bon, je vais le faire. Bon, il le fait en traînant les pattes, quoi, comme ça. Pas mal, comme ça. Enfin bon. Ce disque, donc, qui sort, et il devient numéro 1 au Billboard. Enfin, il vend des disques en masse. Of your mind.
Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, les moulins de mon cœur. Mind est un mot en deux syllabes une fois traduit en français, esprit. Ça ne pouvait donc pas être traduit comme ça. Et la personne qui a fait la traduction, Eddie Marnay, était un très bon parolier français. Il était tellement inventif. Vous savez, il travaillait tout le temps. Ses doigts, qu'il y ait un piano ou non, étaient occupés à taper sur la table. Quand il arrivait à la maison, il saluait et allait au piano et se mettait à jouer. Qu'est-ce que t'en penses ? Il créait constamment. Ça ne s'arrêtait jamais. Vous savez, si on était dans l'avion, il avait un piano muet sur lequel il s'entraînait. Ses doigts volaient constamment. Lorsque nous écrivions pour le cinéma, nous écrivions en prose ce que la chanson devait dire. Puis, il écrivait la mélodie. Elles sont si naturelles. Elles sont très chantables. Dans son cas, il en écrivait 5 ou 6 pour un moment spécifique du film. Nous les parcourions et choisissions la meilleure. Et je dirais, dans 99% des cas, nous étions tous d'accord.
Moi, j'aime beaucoup déchiffrer. Alors, je trouve un producteur, Saul Chaplin, un homme qui a fait beaucoup de productions de musicaux, de choses comme ça, qui avait une très belle maison avec deux grands Steinway dans sa maison. Et je dis à Saul Chaplin, je dis, tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est de faire chez toi, toutes les semaines, une soirée, où on improviserait des choses à deux pianos. Il me dit, c'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai une collection de partitions symphoniques, classiques, avec des réductions pour deux pianos, huit mains, c'est-à-dire deux pianistes par piano, de à peu près toute la musique classique de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn et tout ça. Je regarde ces partitions, je me dis, c'est génial, mais on ne les a jamais jouées. Alors je dis, écoute, on va organiser tous les mardis, si tu veux, chez toi, soirée, on va demander à 4, 5, 6 pianistes de venir. Et tous les mardis, pendant 2 ans et demi, on a fait ça avec John Williams, avec Lalo Schifrin, avec plein de gens qui déchiffraient. On sautait, alors tout d'un coup, il y avait des moments catastrophiques où les gens se trompaient. Grossièrement, on arrêtait dans le rire. Enfin, c'était... John Williams, il avait inventé, il a dit, on va appeler ce groupe-là le Golden Hands. Et j'attendais le mardi avec tellement d'impatience. Et toutes les semaines, c'était enfin, je veux dire, la nourriture qui me manquait, c'est-à-dire de pouvoir jouer de la musique, entendre de la musique, en faire de la musique, avec d'autres musiciens.
The Summer Knows, chanson du film Un été 42, dans une interprétation de Sarah Vaughan en 72, le film offrira un second Oscar au French Maestro.
I Love Le Grand. Une série des médias francophones publics.
par Leïla Kadour Boudadi.
Hollywood sonnait pour moi comme une espèce d'exotisme formidable, où j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans mon métier, dans cette nouvelle langue. Après 2 ans et demi, croyez-moi, on le parle drôlement bien, pas l'anglais, mais l'américain. C'est un autre aquarium, c'est un autre rythme, c'est une autre vie, bien plus facile d'ailleurs, beaucoup trop facile, trop lente et trop... Et je suis revenu dardard, car je me suis rendu compte que si on reste et qu'on vit aux États-Unis, on perd ce qu'on possède. Moi, je vois par exemple tes amis américains que j'ai fait là-bas, tous les musiciens, ils arrivent là-bas pleins d'inventions, pleins de vie, je veux dire, ils inventent. Et peu à peu, au fur et à mesure des mois et des années, ils descendent tout doucement pour se retrouver à l'étage de la bonne standardisation américaine. Je me souviens très bien, juste avant la mort d'Edith Piaf, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tu aimes les États-Unis? Moi, j'étais fou, j'étais tout jeune. J'ai dit, oui, je trouve ça merveilleux, super. Ça. Elle m'a dit, en tout cas, si tu vas aux États-Unis, ne reste pas longtemps, parce que si tu restes longtemps là-bas, tu vas perdre ton talent. Et je me suis rendu compte très longtemps après qu'elle a raison. Il y a une sorte de lenteur, de facilité, qui fait que on n'a plus très envie après de ruer. Tout se ressemble, tout redevient à une espèce d'altitude où tout le monde se retrouve. Comment dire? On perd toute fantaisie, on perd toute originalité.
L'heure de la désillusion. Les États-Unis, terre promise pour notre conquérant musicien, va devenir son pire cauchemar. Et cela intervient quelques années à peine après son arrivée en Californie. En 69, l'Académie des Oscars récompense la musique du film L'affaire Thomas Crown. Et étonnamment, Michel, qui ne boude pas son plaisir quand on lui rend honneur, est absent. Il ne montera pas sur scène pour recevoir sa première statuette. C'est le couple Bergman qui sera immortalisé dans les archives de la télévision. Michel est rentré en France. Officiellement, il travaille sur un film. La vérité est tout autre. Il est au bord de l'implosion.
And the winner is Michel Legrand and Alan Marilyn Berger for the Windmills of the Month.
We'd like to thank, first of all, Michel Legrand for that beautiful melody. And to throughout to you all, thank you very much.
Thank you.
I think it was very early in the morning.
Il était très tôt le matin en France.
I said that we won.
J'ai dit on a gagné.
He said, oh my God.
Il a dit oh mon Dieu.
We didn't expect it at all.
On ne s'y attendait pas du tout. L'affaire Thomas Crown n'était pas un film aussi populaire que... Il y avait un film, Funny Girl, avec Barbara Streisand, qui a été un grand succès. Et on pensait qu'ils allaient gagner. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement.
Alors je lui dis, parce qu'il y a des tas de vidéos de toi, quand tu chopes, tu montes sur scène pour choper ton Oscar pour un été 42 et Yann Teul, mais on ne trouve rien sur Thomas Crown. Et là, je le revois, il se fige, et il me dit, non, je n'y étais pas. Je lui dis, mais tu n'y étais pas, pourquoi? Il me dit, mais parce que j'étais pas à Los Angeles, j'étais rentré en France, et j'étais en pleine dépression. Et le mot est lâché. Alors je lui dis, mais dépression, pourquoi? Et là, il commence à me raconter que cette angoisse qu'il a longtemps eue, de la fin, que tout s'arrête, et notamment de la fin de la vie, et il a une espèce d'angoisse sourde qui l'a envahi, peut-être aussi une impression de surmenage, de trop-plein, et une impression de ne plus être capable, de ne plus y arriver, qu'il ne va pas pouvoir assumer les commandes qu'on lui a faites, les films pour lesquels il a déjà signé des contrats. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu imagines à quel point c'est troublant? C'est-à-dire que c'est quand même l'aboutissement, la convergence de quelque chose dont tu as rêvé, qui est la réussite californienne, hollywoodienne, la sanction de l'Oscar qui tombe. Et c'est un moment de gloire que tu vis comme un moment d'échec. Ils me disent, oui, c'est exactement cela.
Je quitte Los Angeles parce que j'ai été agrippé par une dépression nerveuse. Je travaillais beaucoup, et tout à coup, j'étais pris de vertige devant la connaissance de la mort. C'est-à-dire que tout à coup, je suis pris de détresse et je suis pris de vertige devant cette image de la mort immuable à laquelle on n'échappera pas. Et je commence à ne plus dormir la nuit. Je vais voir les meilleurs docteurs là-bas qui me disent, écoutez, il faut dormir à tout prix, alors il me donne des pilules pour dormir. Alors au début, J'en prends une, puis deux, puis quatre, puis huit, puis deux mois après. Puis j'en prenais 12 à 10h du soir, 8 autres à 3h du matin. Enfin, et je prenais le matin des uppers, des pilules différentes pour me réveiller. Et alors j'étais devenu un légume, quoi. Un vrai poireau. C'est-à-dire que je commençais à... Moi qui aime parler vite, je commençais à parler vraiment comme une bicyclette sans personne dessus. Et tout à coup, la vie m'apparaît terrible et je sens que je sombre en dépression.
Cette dépression, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui burning out. C'était qu'il était surmené. Toutes les nuits à composer, à enregistrer, à coups de café, de rhum et des énormes cigares. D'ailleurs, moi, je n'aurais pas supporté à l'époque, hein, parce qu'il ne fumait plus. Quand on s'est marié, il ne buvait plus. Mais il a quand même fait tout ça. Donc, il a payé à un moment donné. Et puis, ce burning out, ça l'a sauvé. Parce que s'il était resté aux États-Unis, comme a fait Maurice Jarre, par exemple, finalement, au bout d'un moment, on entre dans le système et on n'est plus une exception. Et lui, quelque part, il fallait qu'il revienne en France, il fallait qu'il reste un grand compositeur français que l'on convoquait aux États-Unis, mais qui n'est pas dans le tissu de Los Angeles et avec tous les tics des Américains. Alors, il a bien aimé la vie américaine, parce qu'il aimait les plein air, parce qu'il avait des enfants en bas âge, et que donc il pouvait être au tennis et à la piscine toute la journée. Mais quand même, très vite, il a eu une nostalgie pour la vie culturelle française, et il a eu envie de revenir. Donc, cette dépression, c'est son instinct très fort qui l'a ramené en France.
J'appelle à Paris mon grand ami Michel Fouquet, qui était un docteur prodigieux, qui connaissait tellement le système nerveux de ces gens-là. C'était le docteur de Maurice Chevalier. Je l'entends encore me dire « Je vais te rendre la joie de vivre. » Et je suis resté d'abord 17 jours dans un lit, sans pouvoir bouger. Il m'avait donné des médications tellement fortes que je ne pouvais ni parler, ni même bouger un orteil ou un doigt. Et le 17e jour, je dors une heure dans l'après-midi. Et j'en recommençais à vivre. Ce qui m'a permis de retourner en Californie après travailler.
Et Michel Legrand n'aura de cesse de faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Au cours de cette parenthèse californienne, il aura gagné le cœur du public américain, aura scellé une amitié et une collaboration fructueuse avec les Bergman, et sur son chemin, une femme, une interprète extraordinaire, Barbara Streisand. Plus qu'un compositeur de musique, Michel va démontrer là encore un nouveau talent, celui de maître chanteur. Et sur son chemin, il y aura même la voix cristalline du futur roi de la pop, Michael Jackson.